Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Salut à tous, c'est parti pour deux heures en direct ensemble, deux heures spéciales équipe de France avec coach Courbis qui est avec nous aujourd'hui. Salut coach, bienvenue.
Salut à tous.
Et avec Seb Piocel comme tous les dimanches, ça va Seb?
Salut Marina, ça va, bonjour coach. Bonjour.
On va parler bien sûr des Bleus, on va se demander qu'est-ce qui cloche avec ces Bleus parce qu'on sent qu'il y a une forme de lassitude autour de ce groupe, on n'arrive pas vraiment à s'emballer, les audiences sont parlantes, beaucoup de choses à dire autour de ce groupe en pleine mutation. La conférence de presse d'avant-match, avant la Belgique demain est en cours en ce moment à Bruxelles. Coach et Seb, on va l'écouter. Il y a Aurélien Tchouaméni, capitaine demain, qui parle. Il a dit déjà qu'il voulait gagner la Ligue des Nations. Et là, il parle de la Belgique.
C'est pas forcément. Après, on en parlait aussi entre nous. On a eu pas mal déjà de matchs contre la Belgique. L'historique des matchs contre la Belgique est assez important. Après, voilà, on entend deux, trois petites choses des fois dans les médias de la part de certains joueurs, que ça soit avant ou après les matchs, mais on aime ça aussi. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est le terrain. Et puis, que le meilleur gagne demain.
Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Qu'est-ce que ça change pour toi de quand vous jouez avec quatre offensifs par rapport à ce que vous pouviez faire à l'Euro, ou ce qui est plutôt trois milieux, et toi en point de basse?
C'est différent dans l'animation du jeu. C'est sûr qu'en phase offensive, évidemment, qu'avec plus d'offensif, on a la capacité à créer plus de jeux. Après, on l'a vu lors du dernier match, c'est que malgré le fait qu'on ait joué avec quatre offensifs, je trouve que dans le contre-pressing, dans ce qu'on s'était dit, pour essayer de contrecarrer les forces israéliennes, on a réussi à faire ce qu'il fallait. Donc, évidemment que ça change, mais au final, les deux, ça convient à tout le monde.
Aurélien Tchouaméni en direct sur RMC. C'est la conf d'avant-match des Bleus avant la Belgique demain.
Vu les dernières victoires de la France contre la Belgique, à quel point ça vous donne confiance, voire même un avantage psychologique avant même de commencer le match contre l'équipe belge?
Un avantage psychologique, je pense pas. Chaque match a son histoire. Qu'on ait gagné les 10 derniers matchs ou qu'on ait perdu les 10 derniers matchs, le plus important, c'est ce qui va se passer demain. Donc, il y a la possibilité de continuer, en quelque sorte, cette série de victoires, si je me trompe pas, contre la Belgique. Donc, il va falloir qu'on continue à faire ce qu'on fait de bien.
Aurélien Tchouaméni, un discours... pour l'instant convenu sur ce match qui attend les Bleus demain face à l'Italie.
On se souvient que pendant l'Euro, le sujet central, c'était l'efficacité offensive. On voit que depuis deux matchs, même si c'est court, mais sur les deux derniers matchs, les attaquants ont retrouvé le chemin des filets. Dans quelle mesure est-ce que votre influence, votre travail au milieu de terrain a pu y contribuer? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé, que vous avez travaillé?
Notre rôle d'abord en tant que milieu de terrain, c'est de créer du lien entre les défenseurs et les joueurs offensifs. On a marqué pas mal de buts là sur les derniers matchs, donc je pense que c'est bien ce qui nous avait un peu desservi à l'Euro. Donc ça veut dire que tout le monde travaille bien, que ce soit les défenseurs qui sont aussi capables de faire des passes décisives, mais aussi nous les milieux à récupérer des ballons en phase haute aussi, ce qui peut faciliter la création d'occasions. Donc je pense qu'on est pas mal sur ce sujet-là, même si évidemment qu'on doit encore tous progresser pour continuer à améliorer notre jeu.
Bonjour Aurélien, Nicolas Payard, Info Sport Plus, Canal Plus. En quoi la fin prolifique du match face à Israël, ça peut servir pour demain?
Ça nous a donné de la confiance. Évidemment qu'entre un 2-1 et un 4-1, c'est différent. Comme je l'ai dit, on s'est créé des occasions. On a surtout réussi à être tueur devant le but, ce qui est important dans le football de très haut niveau. Donc il va falloir qu'on continue à s'appuyer sur ça. Qui plus est contre une équipe contre la Belgique, qui va forcément nous poser des problèmes. Donc si on arrive à être tueur et prolifique devant le but, ça va nous permettre d'avoir plus de chances de gagner le match.
Aurélien, lors du précédent rassemblement, vous n'étiez pas là, mais il y a eu 8 changements entre l'Italie et la Belgique. Vous avez le sentiment qu'il peut y avoir autant de changements? C'est quelque chose que vous avez évoqué avec le coach, ou quelque chose que vous avez ressenti au niveau des séances d'entraînement, modification de schéma tactique?
Non, pas du tout. J'en ai pas parlé avec le coach, c'est pas mon rôle. Il sera là après, donc vous pourrez lui poser la question. Mais concernant la séance d'entraînement d'hier, vous étiez là, du coup je pense pas que... qu'il y ait quelque chose qui a été montré, surtout avec le but des jeux couchés. C'est pas là que vous allez savoir comment on va jouer, nous non plus. Donc, écoutez, il va arriver. Tiens, je crois que c'est lui qui se cache derrière la porte en plus. Donc, voilà.
Aurélien Tchouaméni et toutes les questions, évidemment, sur la composition, le 11 de départ demain. On aura des informations sans doute un peu plus précises dans les heures qui viennent. Il va y avoir un entraînement après cette conférence de presse de la part des Bleus pour la mise en place tactique. Pas de changement attendu, enfin, en tout cas c'est ce qu'il dit lui, coach, par rapport, jouer la Belgique, ça va être autre chose. Est-ce que Didier Deschamps a intérêt à faire des modifications? Qu'est-ce que tu ferais, toi?
Quand on dit pas de changement, d'après ce qu'on a cru comprendre, on devait passer du 4-2-3-1 en 4-3-3, ce qui est quand même totalement différent. Et là, il semblerait qu'on resterait dans le 4-2-3-1 ou j'ai pas bien compris?
Non, effectivement. Alors,
je pense qu'ils vont jouer en 4-3-3.
Ouais, la tendance, c'est qu'on revienne à ce schéma-là, évidemment. Alors, c'est pas Aurélien Tchouaméni qui va nous donner les infos. Didier Deschamps ne le fera pas non plus, ça, tout à l'heure. Hein, donc,
Non, mais si jamais ça se confirme, et je pense que quand on discutera avec Jeannot, c'était un peu la tendance sur le fait qu'ils inversent le triangle et que Aurélien Tchouaméni soit vraiment le joueur devant la défense. On peut imaginer Fofana intégrer le milieu à 3 avec Kamavinga à la place d'Olise qui était en pointe haute, en 4-3-3.
C'est-à-dire on aurait les deux Fofana, un arrière central et l'autre...
Non, moi je te parle du milieu de terrain, Fofana qui joue au Milan AC avec Kamavinga dans les deux relayeurs. Et puis je pense Thuram devant la place de Colomoigny et Barcola à la place d'Nkunku et Dembélé de l'autre côté en 4-3-3 en fait. Enfin, c'est ce que j'imagine, il ne bougera pas sa défense, enfin je pense pas. Cette défense à 4 là, il ne bougera pas.
Il ne bougera pas l'organisation.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais sinon, au niveau défensif, il y a pratiquement 3 ou 4 défenseurs qui changent par rapport au dernier match.
Oui, non, mais là je te parle pour le match de demain. L'équipe alignée...
On se projette sur la Belgique,
on essaye en tout cas. Je pense que les 4 plus Tchouaméni et Kamavinga seront titulaires demain, je ne suis pas à la place de Deschamps. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des changements par rapport aux derniers matchs internationaux. Mais là, du match d'Israël au match de demain, je pense que ça bougera pas au niveau des quatre défenseurs et forcément du gardien.
Allez, on verra ce que dit Didier Deschamps dans un instant. Il va venir en conférence de presse. On entendra également des extraits. Aurélien Tchouaméni qui a été questionné, évidemment, sur Kylian Mbappé. C'est le dossier encore de la semaine. Il n'est pas là, mais on ne parle que de lui. Écoutez ce qu'en a dit Aurélien Tchouaméni. Est-ce que pour lui, il y a une question ou pas autour de sa non-présence en équipe de France?
Je trouve qu'on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais de toute façon, on le sait, à chaque fois que c'est Kylian, ça prend toujours des proportions démesurées. Pour ceux qui sont proches de lui, on a eu la possibilité de parler avec lui avant le match, après le match, sans problème. Il a suivi le match. L'endroit où il a suivi le match, pour nous, franchement, ça a pas forcément d'importance en vérité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'amour de Kylian pour l'équipe de France n'est plus à démontrer. On sait qu'il est toujours là pour les gars, comme je l'ai dit, il a envoyé pas mal de messages aux gars pour savoir comment ça se passait et tout, donc on a hâte qu'ils reviennent tout simplement.
Voilà, absolument le même son de cloche que ce qu'avait dit Matteo Guendouzi et Fofana également il y a deux jours, aucun souci, on sait qu'il est avec nous. Vous en faites trop, alors qui en fait trop, coach?
Premièrement, je m'imagine pas les joueurs questionnés sur Kylian Mbappé dire autre chose que ce qu'ils ont.
Évidemment.
Vous imaginez.
On demandera à Jeannot ce qu'il se dit en interne et les sons de cloche qu'il a lui.
Qu'on puisse pas quand même parler d'un coéquipier aussi différent et aussi important que peut être Kylian Mbappé maintenant depuis plusieurs années. Oui. Donc, par contre, si on n'a pas compris, ou je sais pas si on le fait esprit, que Kylian Mbappé a besoin de couper par rapport à ce qu'il a fait depuis les 2-3 dernières années, je dis bien les 2-3 dernières années, parce que le temps, il passe vite, je dirais, malheureusement.
Pour ceux qui regardent aussi.
Il passe même très vite. Mais quand on parle de Kylian Mbappé, et qu'on dit, sur les 6 derniers mois, ou sur les 12 derniers mois, non, c'est sur les 3 dernières années, Kylian Mbappé, pour moi, a commencé à avoir de sérieux soucis avec son club, quelques mois avant la Coupe du Monde qui se jouait au Qatar et que le Paris Saint-Germain et les dirigeants et l'émir ne voulaient absolument pas que Mbappé puisse ne pas être au Qatar et à Doha pendant la Coupe du Monde. Donc ça fait 3 ans qu'il est en accord, désaccord. Ce qui fait quand même beaucoup, pour ne pas dire beaucoup trop, pour un cerveau, quand j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer des gens instruits qui m'ont toujours dit, au plus il y a du souci à l'intérieur de ton cerveau, au plus il y a les risques de te blesser, mm-hmm. et au plus, ben c'est compliqué pour être performant. Donc là, pour le moment, on a un Mbappé qui est quand même sur une descente en ce qui concerne son niveau. Essayons quand même plutôt de regarder ça plutôt que de savoir ce qu'il a mangé le soir du match contre Israël, et si des fois du nightclub il est parti à minuit et demi ou à 5h du matin. C'est vrai que ça m'intéresse vachement.
Et ça fait beaucoup, effectivement. On va continuer d'en parler. Seb, tu nous diras ce que tu en penses aussi. Didier Deschamps, il est arrivé en conférence de presse à Bruxelles, on va le voir.
Si vous voulez que je réponde à ça, il est là, oui, le premier match il ne pouvait pas jouer, donc il est censé pouvoir jouer celui-là. Après, milieu défensif 6, 8, 6 et demi, voilà, tout dépend. Il a la capacité, il est bon à la récupération, il est pas maladroit pour sortir les ballons, il aime bien se projeter aussi.
On a Papillon, j'aurais dû te dire, mais on a Papillon qui est avec nous dans cette conférence. Il n'est pas méchant.
C'est pas Colin, c'est pas Colanta ici. Et donc, voilà. Il n'est pas forcément identiquement dans le registre d'Aurélien, même si Aurélien aussi, tous les milieux, ils aiment bien se projeter. Après, ils ne peuvent pas se projeter tous par rapport à l'animation. Mais,
il parle de Manu Koné, bien sûr.
Dans ses, ouais, Manu Koné,
avec son club, je vois où il joue aussi. J'ai discuté pas mal avec lui déjà le dernier rassemblement, mais c'est vrai qu'il avait été pour un premier match, à part le petit défaut qu'il a eu de prendre des cartons très rapidement. Mais autrement, ouais, il dégage beaucoup de tranquillité et d'assurance.
Bonsoir Didier. Devant vous, Julien Thomaville et DNA. Petite question sur Lucas Digne. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Il était avec vous déjà en 2014. Qu'est-ce qui fait que sur toute cette durée, il n'a pas vraiment réussi à s'installer comme numéro 1 en poste latéral gauche? Et pourquoi aussi, c'est un peu l'éternel recours, il revient quand même de manière assez régulière quand il y a des petits soucis à ce poste. Vous faites appel à lui. Est-ce qu'il peut se projeter encore, il a 31 ans, voilà, sur les prochaines échéances des Bleus?
Heureusement, c'est parce qu'il est attaché à l'équipe de France, même. Je sais qu'il n'a pas connu que des moments heureux, ça c'est de ma faute, puisque en le prenant pas pour certaines compétitions, mais à travers ses différentes expériences dans les clubs, il reste parmi les meilleurs à son poste, et il a toujours eu d'ailleurs cette ambition de d'avoir entre guillemets cette place de titulaire qu'il a eu en club, mais pas forcément en sélection.
Didier Deschamps en direct sur RMC avant Belgique-France demain.
Jean-Louis Essaguen, RMC Sport. Lors du précédent rassemblement entre l'Italie et la Belgique, tu avais fait 8 changements. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de... oui, il restait Maignan, Saliba et Kanté. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de changement demain? Pas par rapport à la compo d'équipe, mais dans la situation où vous étiez en septembre, par rapport aux joueurs qui n'avaient pas assez joué. Aujourd'hui, tu es dans un autre registre.
C'est bien.
Est-ce que ça donne matière à réflexion aussi ou pas?
Oui, mais ça, je vous l'ai déjà dit, si vous m'avez écouté, parce qu'on m'a déjà posé la question. Ce n'est pas... Ah oui, d'accord. Bon, je vais répéter. Non, c'est pas la même. En septembre, avec deux matchs en trois jours et pratiquement aucun joueur à 100%, ça me paraissait logique et sans prendre de risque d'amener un turnover, comme vous l'appelez, très important, ce qui a été le cas. Il y aura quelques changements demain, mais je pense pas que j'en ferai 8. Même si sûr.
Bonjour Didier Louis-Vix, Info Sport Plus, Canal. On se souvient qu'à l'Euro, la Marseillaise avait été sifflée par les supporters belges. À quel type d'accueil vous attendez? Est-ce que Aurélien Tchouaméni faisait part d'une petite animosité sur le terrain entre Français et Belges? Il y a eu beaucoup d'affrontements, mais est-ce que c'est toujours quand même particulier d'affronter...
Animosité, je pense pas. Il y a une rivalité, bien évidemment, qui s'est créée à travers... parce que on se rencontre très souvent lors des compétitions, beaucoup moins en dehors ces derniers temps, puisque je crois que ça remonte à 2013, le match non de compétition qu'on a joué contre la Belgique. Par contre, on se rend compte toujours à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est pas dans les matchs de poule, c'est plus dans les matchs décisifs. Donc, de par les résultats que nous avons obtenus, voilà, il y a toujours une rivalité en étant frontalier. Je pense pas qu'il y ait d'animosité, puisque les joueurs, ils se connaissent. Il y en a qui jouent dans les mêmes clubs aussi, mais voilà, une rivalité qui est plutôt saine. Après, siffler, pas siffler. Dans un monde idéal, si tout le monde avait une attitude adéquate, tout le monde se porterait certainement mieux. Mais même si c'est pas, rien n'est grave dans l'absolu. Il y a d'autres choses qui sont bien plus graves. Mais voilà, on sait qu'on vient en Belgique, on est chez eux. Ils vont pas chanter la Marseillaise non plus. Après, ouais, ça y est.
Ah. Il y a des gens qui sont attaqués par un papillon,
de la
campagne.
Voilà,
c'est ça, tout à fait.
Campagne de Neuilly.
Bon, c'est Didier Vincent Dubuc à l'équipe. Christopher Nkunku a inscrit son premier but l'autre jour. Barcola et Guendouzi sont plutôt bien rentrés. Est-ce que ça t'arrangerait ou est-ce que t'aimerais que Marcus Thuram franchisse un cap, lui aussi, en équipe de France, ne serait-ce que statistiquement?
Oui, c'est toujours mieux. Toujours quand les joueurs marquent et quand c'est les joueurs offensifs, tant mieux. Christopher, la première sélection, elle remonte à pas mal de temps, mais malheureusement, il a été tellement freiné par des graves blessures. Bon, il joue dans un club où il y a beaucoup de concurrence aussi, mais à chaque fois que je l'ai vu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il a plein de jus, comme on dit, et des capacités en tant qu'attaquant. Il peut jouer plusieurs postes qui sont intéressantes. Après, concernant Marcus, il est très efficace avec son club, dans un système bien particulier aussi. Oui, il a une étape lui aussi à franchir. Bon, là, il a un petit souci après son dernier match de championnat. Aujourd'hui, ça va mieux puisqu'il a pu faire les deux dernières séances. Mais c'est comme toute... Enfin, c'est une nouvelle génération, c'est pas que l'âge, c'est au moment où ils arrivent, voilà, il faut pas les propulser non plus, ni les condamner. Je prends un exemple de Michael, son potentiel est énorme. De là à ce que ça puisse se traduire pour différentes raisons, ça passe par évidemment du temps. Il y en a, ça demande moins de temps, mais pour les joueurs offensifs, oui, c'est je dirais que le gap, il est un peu plus élevé, parce que c'est dans la créativité, c'est pratiquement dans l'obligation d'être décisif. Milieu de terrain, défenseur, bon, c'est plutôt être efficace, mais là, dans la dernière zone, donc forcément, ça demande voilà, une confiance, une tranquillité qui amène à faire le geste le plus juste possible. Marcus a eu pas mal d'occasions avec nous, malheureusement, qui ne s'est pas concrétisé par des buts.
17h24, RMC, Didier Deschamps, avant Belgique-France.
C'est tous les matchs, hein. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir 30 sélections, mais en temps de jeu, ça ne fait pas 30 fois 90 minutes. Mais oui, Marcus il a d'autres qualités aussi. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, il peut jouer plusieurs postes. Voilà, mais potentiellement, lui aussi, de par ce qu'il est capable de faire, c'est très intéressant. Après, le matérialiser au plus haut niveau et au niveau international, ça demande du temps.
Bonsoir Didier, Xavier Monferrand de Radio France sur votre droite. Aurélien tout à l'heure nous parlait, était questionné au sujet de la Ligue des Nations et nous disait que bon, que c'était pas la compétition du siècle, que c'était un secret pour personne. Quelle valeur est là, vous, à vos yeux, cette compétition, et comment vous... On sait que vous en servez un peu aussi pour voir du monde, parce que l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2026, évidemment, mais quelle valeur est là, à vos yeux?
Celle que vous lui donnez. Je ne sais pas si on la gagne, ça compte ou ça compte pas, on l'a gagnée. Si ça se passe, comme c'était le cas avant Doha, même si ça nous a mené à avoir... des résultats qui n'étaient pas les meilleurs, mais de par le fait que ça se passe juste avant la Coupe du Monde, permis d'avoir aussi, parce qu'on avait, je crois, 4 matchs au mois de juin, donc rapproché, pas en octobre, donc ça a permis de voir plus de joueurs. On garde toujours, parce que il y a l'exigence, c'est l'équipe de France, et c'est une compétition, donc je ne vais pas vous dire... J'en ai rien à faire, et les joueurs non plus. Maintenant, ils savent évidemment que dans leur saison sportive, c'est une compétition qui devient intéressante à partir du moment où on est qualifié. Avant, c'était le Final Four, maintenant, c'est Final Eight. Donc, voilà, ça amène à des calendriers qui peuvent être modifiés par la suite, mais... Avec, je ne sais pas si c'est des avantages ou pas, puisqu'il y a différents niveaux de Ligue A, B, C, D. Donc, les meilleurs sont censés rencontrer les meilleurs. Donc, pour vous, pour les diffuseurs, certainement, il y a plus de matchs avec des affiches. Maintenant, je me mets à la place aussi, parce que j'ai discuté avec certains sélectionneurs de nations... Un peu en dessous, y a plus de place pour rencontrer les plus gros des équipes de notre continent, parce que pour avoir une plage où on peut faire un match amical, deux matchs amicaux ou une tournée, c'est quasi impossible aujourd'hui. Donc on s'adapte, mais comme je l'ai dit, ces six matchs-là, sans perdre l'envie et l'ambition d'être dans les deux premiers de notre groupe. Il y a aussi l'objectif pour moi de voir les joueurs en action sur le terrain, quoi, le plus possible.
La valeur de cette Ligue des Nations. Bonsoir, Didier Deschamps, Philippe Sanfour, on parle avant d'affronter la Belgique demain.
Pour revenir succinctement sur le sujet de Kylian.
Succinctement.
Oui, enfin...
Il n'est pas là.
On a bien compris que d'un point de vue purement réglementaire, il faisait bien ce qu'il voulait, il n'y a aucun souci.
Est-ce qu'en revanche,
oui, mais par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui, est-ce qu'on peut regretter une petite faute de com, une mini faute de goût à minima, le fait de s'exposer un petit peu aux quatre coins de l'Europe pendant les matchs de l'équipe de France, ou est-ce que ça n'est pas un sujet?
Chacun aura sa propre perception. Peut-être, je ne sais pas, Aurélien, il est au courant du programme de son club et du sien. S'il est libre à lui de pouvoir, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas regardé le match ou il n'a pas envoyé de message. Moi aussi. Donc, après, si ça gêne certaines personnes, c'est s'il était là où il était, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation de son club. Mais bon, je suis prêt à. Je suis toujours prêt à comprendre les différentes situations. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Ça peut être bien, mal pour d'autres. Il ne faut pas avoir le mal partout non plus, à partir du moment où... Et c'est pas vouloir le défendre pour le défendre. Il est dans sa vie privée. Le seul truc, c'est lui, sa vie privée. Elle n'est pas privée parce qu'on sait où il est. Ce qui n'est pas votre cas, et ça vous arrange bien, certaines fois.
Les petites allusions de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Avec son sourire.
Bonjour, vous êtes quand même.
Son sourire qu'on lui
Bonjour,
connaît.
Didier.
Il est taquin, évidemment, Didier Deschamps, ben forcément, parce qu'il s'imaginait bien qu'il allait encore avoir une question sur Kylian Mbappé, vu l'actualité de la semaine. Il y a répondu, comme il y répond depuis plusieurs jours, en disant... chacun a sa perception. On va continuer d'en parler évidemment ensemble avec Coach Courbis, avec Seb Piocel. Jeannot Rességuier sera en direct également avec nous. Puis on revient à l'Intégral Foot.
RMC Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Coach Courbis, avec Seb Piocel, avec Aurélien Tchouaméni et Didier Deschamps qui viennent de donner leur conférence de presse avant Belgique-France demain. Match dont on va parler bien sûr sur le fond. Il a encore été question de la non-présence de Kylian Mbappé. Coach nous disait tout à l'heure qu'il faut bien prendre en compte qu'il a une fatigue mentale depuis des années, qu'à un moment donné, il faut lui permettre aussi de souffler. Seb, c'est quoi ton avis, toi?
Déjà, c'est qu'on en fait beaucoup trop avec Kylian Mbappé. Mais bon, ça, comme l'a dit Didier Deschamps, moi, c'est la star de l'équipe de France et c'est une des stars mondiales. Mais pour aller dans le sens du coach, au-delà, bien sûr, de la fatigue mentale, et je vais pas aller jusqu'au moment où il a commencé le foot, mais presque. Mais c'est quand même un joueur qui a pas encore 26 ans. Il les aura à la fin de l'année. Et je regardais qu'il a quand même déjà joué 459 matchs Alors, je parle pas des statistiques, hein, mais 459 matchs. Donc, forcément, Roland parlait plutôt des deux, trois dernières années. Mais même sur la dernière année, l'année civile 2024, au-delà de l'aspect physique, et c'est surtout la gestion aussi d'Enrique. On se rappelle qu'en tout début d'année, donc quand il a annoncé officiellement avec ce courrier qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain, où c'est un joueur qui a besoin d'être sur le terrain. On l'a vu qu'il avait beaucoup soufflé. Il jouait un match sur deux, un match sur trois. Il n'était pas titulaire. Ça a joué aussi forcément. Et puis le dernier Euro où il a eu cette blessure au nez, il n'était pas bien physiquement. Donc à un moment donné, il arrive dans un nouveau club avec le standing que l'on sait. Il a besoin de souffler. Et encore une fois, ça pose pas de souci avec De Bruyne, par exemple, avec la Belgique. La seule chose, c'est que là, c'est un vrai problème de communication. Ce qui me vient juste, c'est ce fameux match face à Villarreal. Mais encore une fois, peut-être que le joueur, lui, il est au milieu de ça, et l'accord et la communication, elle doit être d'un côté du Real Madrid et de l'équipe de France.
Oui.
Et pour le restaurant et la sortie nocturne, complètement dans le sens du coach, c'est sa vie privée. Je pense qu'il a prouvé à plusieurs reprises que c'est un grand professionnel. Il a le droit de faire ce qu'il veut.
Et comme Didier Deschamps, quand on s'appelle Kylian Mbappé, une vie privée, on n'en a plus. Et ça, il faut bien l'avoir en compte aussi quand on juge ses actes et ses attitudes, Kylian Mbappé. Alexandre, salut, tu nous appelles au 32-16 sur RMC. Merci d'être avec nous.
Bonjour Marina, bonjour Roland, bonjour Seb.
Salut Alexandre. Tu voulais réagir sur cette affaire Mbappé ?
Oui, je voulais réagir sur cette affaire Mbappé. Ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire de vol direction Stockholm, c'est pas tant la soirée en elle-même que ce que ça implique. C'est-à-dire que selon moi, ça me dérange parce que c'est symptomatique de ce qu'est Kylian Mbappé depuis 2 ans. C'est quelqu'un qui a une soif inextinguible de pouvoir personnel au détriment des institutions. C'est un parangon de tout ce qu'on déteste dans le football contemporain. C'est l'individualisme à outrance. Et c'est ça qui me dérange avec lui.
Mais alors, tu dis que c'est individualiste parce qu'il renonce à rejoindre le groupe France?
Bah oui, parce que, au cas parallèle, Brahim Diaz, il était en tribune pour regarder ses coéquipiers jouer. Si Kylian Mbappé peut physiquement endurer, parce qu'on parle de blessure, s'il peut endurer un vol Madrid-Stockholm, il peut endurer un vol Madrid-Budapest.
Mmh. Mais après, c'était pas une obligation. Encore une fois, là, on a juste on sait juste qu'il est parti manger au restaurant, éventuellement qu'il est sorti un peu après. Comme l'a dit Tchouaméni ou même le sélectionneur, il a envoyé des messages. Dès l'instant que c'est pas obligatoire, je vois pas en quoi il est individualiste là-dessus. Je peux te rejoindre par moment. Et ça, on en a parlé de nombreuses fois ici à l'antenne sur le fait qu'ils veulent tout maîtriser. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément un bon exemple. Tous les joueurs blessés ne viennent pas voir leur équipe, surtout sur un match. Alors, il faut pas minimiser cette compétition, comme ils l'ont dit, mais à la rigueur, ça serait une demi-finale d'Euro ou de Coupe du Monde ou un match, décisif, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, franchement, je vois pas en quoi ça rentre.
Mais quand on fait. Excuse-moi. Non, mais justement, la question, elle est pour toi. C'est que quand on fait des comparaisons, tu penses quand même qu'il faut pas un petit peu s'appliquer à ce que les comparaisons soient comparables? Toi, tu me compares Mbappé avec Diaz. Tu me compares les 3 dernières années d'Mbappé et ce que vit Mbappé 24 heures sur 24 avec Diaz. Toi, si tu as la coupure d'Mbappé après 3 ans de boulot, eh ben, au lieu d'aller à Stockholm, tu vas là où il y a l'équipe de France pour les regarder jouer. Peut-être aussi tu mets le maillot de l'équipe de France avec un drapeau, non? Enfin, je sais pas, mais par moment, je me demande si on réalise des conneries. Je te rassure, on en dit tous. Mais sincèrement, je t'écoute attentivement et je vais continuer à t'écouter attentivement. Désolé de t'avoir coupé.
Mais circonstance aggravante concernant Kylian Mbappé, c'est le capitaine. Je vais revenir là-dessus après. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui, quand il prend la parole, régulièrement, il donne des leçons à qui veut bien l'entendre, notamment la fameuse phrase après le match aller contre le Bayern Munich, bien manger, bien dormir. Et ben, ce genre de phrase, quand c'est comme ça, ça lui revient en pleine figure.
Il n'a pas le droit de vivre, en fait. Il n'a pas le droit d'aller manger au restaurant.
Il ne dit pas qu'il n'a pas le droit de vivre.
Mais en fait, il faut aussi se mettre à la place de ces joueurs de haut niveau qui sont dans ce milieu-là depuis 15 ans, parce que, encore une fois, il faut compter aussi le centre de formation. Et en plus, c'est un joueur à part. Franchement, moi, je trouve qu'on en fait vraiment trop. C'était un match face à Israël. Il a pas, c'est pas comme s'il était parti aux Maldives ou passer une semaine de vacances au soleil. On l'a vu faire une petite escapade d'ailleurs parce qu'il était autorisé par son club. Franchement, encore une fois, je trouve qu'on en fait trop et même on en a même fait trop ici sur cette antenne à vouloir lui retirer le brassard. Enfin, franchement, ça va vraiment trop loin.
Il est parti s'aérer, Alexandre. Est-ce que ça c'est un argument que tu peux entendre ou c'est ou non pour toi un capitaine de l'équipe de France fait, il doit être là en permanence, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, c'est ta position?
Ben, ça s'entendrait davantage s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on voit sur Mbappé depuis 2 ans à vouloir braver l'autorité, à vouloir du pouvoir personnel encore et encore.
Oui, toi tu l'associes à tout ce qui s'est passé.
Donc, c'est-à-dire que si...
Mais ça s'inscrit dans la continuité, Marina, c'est ça le problème.
Si le hasard de notre destin et de notre vie avait fait que tu sois Mbappé, donc tu aurais été totalement différent d'Mbappé. C'est ça?
Bah oui, personnellement, j'aurais fait plutôt comme Brahim Diaz.
D'accord. Peut-être aussi, ça te va mieux.
Eh ben, merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, pour ton avis. Tu reviens quand tu veux au 32-16 sur RMC. Merci.
Je te remercie, Marina.
Merci Alexandre. Bonne même si journée. On n'est pas d'accord avec toi, tu sais que tu es toujours le bienvenu.
Évidemment. On discute toujours sur RMC et on fait une petite pause, coach et Seb. On ira voir Jeannot dans un instant, Jeannot Rességuier, parce qu'on va parler des possibles changements. On va parler, oui, du jeu et de cette équipe de France. Est-ce que ça pourrait donner demain face à la Belgique? À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Et toujours avec coach Courbis, avec Seb Piocel et avec Jeannot Rességuier, suiveur des Bleus évidemment, qui est en direct avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir Marina.
Salut Jeannot.
Avec donc un Aurélien Tchouaméni, capitaine demain, pardon de te couper, cher Jeannot, capitaine de demain, il en a parlé.
Je voulais dire bonsoir à Sébastien, je voulais pas l'oublier. Effectivement, on a voulu savoir comment ça s'était passé pour lui, comment il avait vécu la situation d'avoir récupéré le brassard de capitaine, et puis le fait qu'il soit devant nous ce soir en veille de match, de garder ce brassard de capitaine. Il l'a plutôt bien vécu et beaucoup de fierté. Écoutez le milieu de terrain du Real Madrid.
Je sens de la confiance de la part du groupe, mais aussi du coach. Donc, comme je l'ai dit, à partir du moment, j'ai su que j'allais être capitaine pour le premier match, ensuite pour le deuxième. C'était beaucoup de fierté et de reconnaissance. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à être là où je suis aujourd'hui.
Coach, être capitaine, ça ne veut pas forcément être leader. Les deux vont ensemble ou pas?
Oui,
forcément.
Oui, bon, ça, c'est pas interdit que ça soit le cas.
Qu'est-ce que tu penses d'Aurélien Tchouaméni? Comme capitaine.
Déjà, c'était difficile d'en trouver un autre, puisque bon, chacun a sa vision des choses. Moi, je suis contre les gardiens capitaines pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne font pas le même boulot que les coéquipiers. Et donc, j'ai beau faire le tour, je vois pas un autre gars capable d'être capitaine. Donc, le choix de Tchouaméni, je trouve que c'est tout simplement un bon choix, même si c'est uniquement pour pallier l'absence de Kylian, oui, qui reprendra son brassard dès qu'il va revenir.
Ça, il y avait quand même Ibrahima Konaté qui pouvait être capitaine. Il a perdu sa place de titulaire à l'Euro et il n'est pas tout le temps titulaire.
De par le poste, c'est pas parce que c'était mon poste, c'est intéressant aussi d'avoir un joueur un petit peu au milieu de terrain,
plein cœur de l'équipe, c'est ce que j'appelle moi.
Il joue quand même au Real, quand il arrive, c'est quand même un joueur qui est titulaire au Real, qui commence à avoir de la bouteille, de l'importance. Après, on n'a pas l'impression que ce soit hyper naturel. C'est quelqu'un de calme, de posé. D'ailleurs, il l'a dit, j'avais lu un article là-dessus. Qu'il soit capitaine là en équipe de France ou au Real ou dans les équipes là où il sera, c'est pas quelque chose forcément naturel pour lui. Par contre, c'est quelqu'un qui...
Mais il se force pas.
Voilà, c'est ça.
Jeannot, on a écouté presque la totalité, mais comme on a été coupé 2-3 fois par la pub, est-ce qu'il lui a été posé comme question, pas seulement les joueurs qui seront changés par rapport au premier match, l'organisation passée du 4-2-3-1 en 4-3-3?
Eh ben, la question lui a été posée justement, il n'a pas répondu vraiment sur la question et sur le côté tactique. C'est tout à fait normal puisque il ne répond jamais à cela. On parle de Didier Deschamps sur le fait que entre Italie et Belgique en septembre dernier, il avait fait 8 changements. Hein, il ne restait que Maignan, Saliba et Kanté, mais on était dans un registre un peu particulier, notamment au niveau du calendrier du début de saison. Donc, je vous propose d'écouter sa réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas jusqu'à 8 changements.
En septembre, avec deux matchs en trois jours et pratiquement aucun joueur à 100%, ça me paraissait logique et sans prendre de risque d'amener un turnover, comme vous l'appelez, très important, ce qui a été le cas. Il y aura quelques changements demain, mais je ne pense pas que j'en ferai 8.
Alors Jeannot, c'est quelques changements, qu'est-ce que ça pourrait être quoi, ça pourrait être où?
Ah, ça c'est la question que j'aime, surtout avant la séance d'entraînement. Écoute, je pense que comme Tchouaméni va rester au milieu de terrain et qu'il a quand même mis dans la liste Manu Koné qui était suspendu pour le match contre l'Italie dans un retour au 4-3-3, c'était un peu le schéma tactique qu'il avait utilisé lors du match aller face à la Belgique. Il avait en tout cas changé de schéma tactique entre l'Italie et la Belgique. Donc Koné avec Tchouaméni et Guendouzi ou Fofana, j'essaie de réfléchir à voir de quelle manière il peut y avoir justement des changements, mais pas trop dans le secteur défensif. Maintenir Koundé côté droit, peut-être mettre Digne à la place de Théo Hernandez, qui a peut-être besoin de souffler. Wesley Fofana, qui était en conférence de presse hier, associé à Saliba, deux joueurs qui se connaissent, qui ont joué ensemble. Pourquoi pas? Parce que Saliba, ça devient un véritable cadre de cette équipe et de cette défense de l'équipe de France. Et Wesley Fofana, c'est juin 2023, la seule sélection qu'il a eue. Entre-temps, il y a eu cette grave blessure de rupture des ligaments. Donc, l'envie de le voir jouer dans un match important, comme celui de demain contre la Belgique. Et après, devant la titularisation de Thuram, je pense, en tant que numéro 9, puisqu'il va bien, puisqu'il n'a plus de soucis de cheville, puisqu'il cartonne avec l'Inter Milan, alors avec deux attaquants, avec Lautaro, soit avec Taremi, mais bon, il faut qu'à un moment donné, il se réveille et qu'il claque des buts. C'est un peu ce qu'on lui demande et ce qu'on attend de Marcus Thuram dans l'animation, avec Dembélé peut-être et Barcola.
Jeannot, tu penses que Koné sera titulaire?
Je pense,
au détriment de, enfin, bon, je pense qu'Olysée sera remplaçant, mais et qu'il va certainement changer son.
Oui, il passera en 4-3-3.
Voilà, il va inverser son triangle au milieu.
On verra tout à l'heure lors de la séance à huis clos,
mais ça condamne Kamavinga.
C'est ce qu'il a fait au match aller. Ouais, mais parce que Kamavinga, il faut aussi penser au fait qu'il revienne de blessure, qu'avant le match contre l'équipe de France, il n'avait qu'un seul match en Ligue des Champions contre Lille. Il a besoin de reprendre du rythme. Quand vous voyez qu'il joue avec un strap énorme à son genou, peut-être que au-delà de le protéger quelque part ou de le ménager, puisque c'est le terme à la mode, ça donne aussi la possibilité de changer le schéma tactique et de voir d'autres joueurs au milieu de terrain. Alors on sait que Guendouzi a fait une bonne rentrée buteur passeur contre Israël et qui joue un cran plus haut avec la Lazio, mais bon, toutes ces réponses là j'espère qu'on en aura, on aura quelques éléments après la séance de veille de match, mais pas certain non plus.
Oui, on sait que ça joue beaucoup au poker menteur aussi dans ces moments-là. Merci Jeannot, je ne voulais pas te mettre en difficulté, bien sûr.
Tu ne me mets pas du tout en difficulté.
Je sais que tu as des infos et
il en garde sous le pied.
Dis-nous tout, Jeannot. En tout cas, on a un auditeur aussi avec nous, Mehdi, qu'on va accueillir tout de suite au 32-16. Salut Mehdi, qui a des idées très claires sur une équipe, ça va?
Oui, salut Mehdi, bonsoir.
Salut Mehdi.
Eh ben écoute, on t'écoute parce que t'as des idées assez claires. En tout cas, il y a une équipe que t'aimerais vraiment voir demain.
Ah ben j'ai une belle équipe que j'aimerais bien voir demain et ça revient pas mal sur le 4-3-3 que vous avez dit. J'enlèverai Koundé à droite, je mettrai Jonathan Clauss. À gauche, je mettrai Kadine. Comme vous avez dit, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut faire souffler un petit peu Hernandez.
Ouais.
Sur les trois milieux, je mettrai un Zaïre Emery.
Les deux arrières centraux déjà.
Tu les changes pas? Oui.
Les deux arrières centraux dans le VLS.
D'accord.
Pour moi, ils sont. Éventuellement, oui, Fofana. Comme je rejoins, je ne sais plus qui a dit ça, c'est Jeannot, le coach. Wesley Fofana avec Saliba. Au milieu de terrain, Kamavinga. pas Mekavenga, Tchouaméni, excusez-moi.
Ouais.
Tchouaméni, Zahir Amri, Nkunku, je l'aurais mis, pareil au milieu. Et en attaque, j'aurais enlevé ben, Olise, Colomoni, je vous dis que Colomoni, non, c'est Nkunku au milieu. Mm-hmm. Et Colomoni, je le change, je mettrai, et j'ai oublié quel attaquant on a.
Thuram.
Non, pas Thuram. Je crois qu'on en a un autre.
Dembélé, Barcola.
Eux sur
Barcola.
Les côtés.
Non, Barcola, je le mettrai à droite, à gauche. Dembélé à droite, pour quelqu'un d'impactant sur un côté au moins. Et je mettrai, peut-être Thuram. Ouais, Thuram à la place de.
Donc ça reviendrait au 4-2-3-1 dans ce cas-là, si tu mets Nkunku dans les milieux. Nkunku derrière.
Quoi,
Nkunku, non, mais si tu dis Nkunku au milieu, c'est que ça serait plutôt
dans une position de 4-3-3.
Nkunku relayeur alors parce que si tu dis que si t'as Barcola et Dembélé sur les côtés plus Thuram devant, si t'as Nkunku ça veut dire que tu
ouais, ou tu fais Sébastien dans l'esprit de notre auditeur de un 4-3-3 avec une pointe haute plutôt qu'une pointe basse.
Ouais, un 4-2-3 en fait. Alors en fait le même système qui a été utilisé. Je pense qu'il sera un peu moins offensif que face à Israël sur la composition.
Ça dépend quel joueur tu mets dans la pointe haute.
Oui, aussi, ouais.
Et après, moi, franchement, entre Colomoni et Serra, j'arrive pas à avoir un attaquant qui arrive à me faire rêver.
Mais t'as envie de revoir Nkunku, ça, on l'a bien entendu.
J'aimerais bien revoir Nkunku, ouais.
Tu peux le mettre numéro 9, comme c'est le cas de temps en temps, et même assez souvent avec Chelsea. C'est le poste qui l'occupe, comme
ça. On a perdu la moitié de nos attaquants qui sont partis en retraite ou qui ont quitté l'équipe de France. Donc maintenant, il faut retrouver une vraie pépite, un vrai finisseur, un tueur à gages devant les buts pour pouvoir nous faire rêver encore.
Ah, t'as entendu Didier Deschamps tout à l'heure, hein, il disait il y a encore des étapes à franchir avec les profils offensifs et voilà, il cartonne le club.
Faut de l'entraînement, il y a encore de l'entraînement, il y a que ça à faire.
Est-ce que cette Ligue des Nations, c'est une forme d'entraînement pour toi?
Ouais, franchement, pour moi, Ligue des Nations, je ne la comprends même pas, je ne sais même pas à quoi elle sert. Je vous dis la vérité. On avait l'Euro, c'était déjà pas mal. On avait l'Euro, c'était déjà bien. Mais la Ligue des Nations, pour moi, c'est plus l'occasion de voir de nouveaux visages, que ce soit pour l'équipe de France ou n'importe quelle nation européenne. C'est plus pour voir des jeunes, style Olise. Et voilà. Et après, peut-être c'est peut-être une étape pour donner une chance à ceux qui jouent avec les espoirs, avec l'équipe de Curie. Donc pouvoir les faire monter, peut-être les tester sur une compétition. Franchement, pour moi, c'est une compétition amicale avant vraiment les grands événements qui sont pour moi l'Euro et la Coupe du Monde.
Ouais. Ben merci beaucoup.
Après, si t'avais pas la Ligue des Nations, t'aurais des matchs amicaux. Et les matchs amicaux, c'est pas toujours simple à trouver, justement. Alors pour l'équipe de France, peut-être un peu plus que pour les petites nations.
C'est le but de la Ligue des Nations.
C'est l'idée de l'UEFA hein, de mettre en place cette Ligue des Nations pour avoir des adversaires de qualité dans des matchs qui, alors, ressemblent à une compétition, semblent peut-être être une vraie compétition, tant que tu ne sais pas si tu vas atteindre la finale à 4. Mais bon. Ayant gagné en 2021, tu peux pas cracher entre guillemets sur
à 4 ou à 8 Jeannot du coup là, parce que tout à l'heure Deschamps il parlait
tu sais,
des finales à 8.
Alors c'est des excès de langage. L'UEFA finale à 8, non, parce que en fait ce sont des quarts de finale que tu auras au mois de mars aller-retour. Donc terrain aller et terrain retour pour les deux nations, chacun chez soi, et ensuite tu auras la finale à 4 au mois de juin qui sera dans une même ville d'une des quatre nations qualifiées.
Si t'es pas dans les quatre, tu feras des matchs amicaux.
Voilà.
Non, tu démarres les éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, tu démarres les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont le tirage au sort aura lieu en décembre. Mais tu seras dans un groupe à 6 et pas un groupe à 5.
Eh ben, on va continuer d'en parler de cette Ligue des Nations, bien sûr, de ce format, de l'intérêt de cette compétition. Il en a été question en conférence de presse avec Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni. Merci beaucoup, Mehdi. Tu reviens quand tu veux au 32-16 pour nous donner ton avis. Merci encore, Jeannot. Reste avec nous, petite pause. Et puis, on se
avec
retrouve
plaisir.
Avec Coach Courbis, Seb Piocel, l'intégral foot. Et on va parler de cette Ligue des Nations. À tout de suite.
Barcola, qui la redonne à Théo Hernandez. Le petit contrôle, la balle derrière. Guendouzi, la frappe et le but avec le poteau rentrant. Ça c'est bien, c'est une belle action, une belle remontée de Théo Hernandez, le décalage avec Barcola, Théo Hernandez qui s'applique à donner le ballon en retrait à Guendouzi pour le 3-1 de l'équipe de France et son deuxième but personnel.
RMC, Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
On est là. Salut à tous. Avec Coach Courvis, avec Seb Piocel. Je me fais encore avoir parlé de jingle. Hein,
toujours
ça,
un peu.
Ouais, ça te fait rigoler, Seb. Mais je
petite
pense que
feinte,
je...
là, ouais.
Petite feinte en régie. Je me suis fait feinter toute seule. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a Jeannot Rosset-Gresseguier qui est toujours en direct avec nous de Bruxelles. Jeannot, on parlait de cette Ligue des Nations, bien sûr, avant Belgique-France. On a entendu Aurélien Tchouaméni et Didier Deschamps en conférence de presse. Et on parlait avec l'auditeur tout à l'heure, Mehdi, de l'intérêt de cette Ligue des Nations. C'est vrai que c'est une question importante. Ça a été abordé aujourd'hui en conf.
Oui, parce que on peut toujours se poser la question réellement de l'intérêt de cette compétition. Alors, on rappelle quand même qu'on l'a gagné en 2021, hein, et notamment avec un match contre la Belgique en demi, puis l'Espagne. C'était en Italie que ça se déroulait à l'époque, cette finale à 4. C'est vrai que c'est un trophée quand tu regardes un peu ce qui se décrit dans le parcours de l'équipe de France. Il n'est pas toujours cité, ouais. En tout cas pas partout, pas sur tous les sites internet, que quand tu en parles avec certains dirigeants.
Mais ça fait partie de l'un des deux trophées que Didier a gagné.
Exactement. Et donc du coup, ça reste un trophée parce qu'il est là, parce qu'il existe. Et puis ça permet aussi, comme on l'évoquait juste un petit peu auparavant, c'est que ça donne des adversaires de qualité quand tu joues l'Italie, quand tu joues la Belgique, quand tu joues Israël ou quand tu joues l'Allemagne ou les Pays-Bas dans les éditions précédentes. Ça veut dire aussi que la Croatie, le Danemark, pour se rappeler des éditions précédentes, t'es moins embêté pour trouver des matchs amicaux. Car à l'époque, même quand tu as été champion du monde en 2018 ou avant champion du monde en 98 et champion d'Europe en 2000, c'était compliqué de trouver des matchs amicaux. Donc oui. L'UEFA s'est rendu compte que pour les petites nations, que je mets entre guillemets, c'était encore plus compliqué. Et donc de l'idée de Michel Platini dans la discussion à l'époque, c'était de dire on va essayer de trouver une compétition qui permette à chacun d'avoir des matchs, d'avoir des dates. Alors après... je sais ce que va me dire Coach Courbis, c'est que quand tu joues par exemple le jeudi, tu te retrouves à jouer ou le dimanche ou le lundi, on peut peut-être décaler de 24 heures, peut-être que dans l'accumulation des matchs, il y aura cette réflexion pour les prochaines éditions de peut-être faire en sorte de décaler les matchs, parce que tu vas te retrouver en septembre, octobre et novembre à 3 matchs par rassemblement.
Les enjeux, parce que ça fait un petit moment qu'elle existe maintenant, mais j'ai toujours du mal à comprendre, si tu gagnes la Ligue des Nations, qu'est-ce que ça t'apporte au-delà du trophée?
Ça t'apporte une chance supplémentaire de te qualifier pour la compétition suivante, soit la Coupe du Monde, soit le Championnat d'Europe. Si par malheur, entre guillemets, encore une fois, tu manquais tes éliminatoires de la Coupe du Monde et que tu te retrouves à disputer des barrages. Et donc, d'accord, du coup, ces barrages-là font qu'à un moment donné, dans la position de la Ligue A, B ou C, tu as cet avantage-là de pouvoir te retrouver avec une chance de participer à la compétition donc reconnu par le monde du football, le championnat d'Europe ou bien la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est passé pour certaines nations notamment qui ont eu droit à cette chance de se retrouver à participer au dernier championnat d'Europe en Allemagne.
C'est une forme de rattrapage quoi. C'est une compétition de rattrapage en tout cas.
Ça peut être aussi une compétition de rattrapage si tu n'es pas bien positionné dans tes éliminatoires. C'est ça. Ouais, tout à fait. Mais après on va l'écouter, hein. Aurélien Tchouaméni ne se cache pas, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas le championnat d'Europe, hein. Écoutez le capitaine actuel de l'équipe de France.
C'est pas la compétition du siècle, on va pas se le cacher. Je pense que c'est un secret pour personne. Après, comme on a dit, c'est une compétition. En tant que joueur de football professionnel, à chaque fois qu'on revêtit le maillot, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le club, on se doit de tout faire pour gagner. On est aussi des compétiteurs. Donc au final, Ligue des Nations, pas Ligue des Nations. Pour ceux qui l'ont gagné, comme c'est le cas pour moi, je suis content d'avoir pu ajouter ce trophée au palmarès. Déjà, si on la joue, on a envie de la gagner. Donc on va tout faire pour.
Voilà, c'est pas la compétition du siècle. Coach, elle a quand même un intérêt, cette Ligue des Nations.
C'est les matchs amicaux ou les matchs de préparation officiels.
C'est ça.
Donc voilà, je trouve.
C'est une très bonne formule.
C'est clair comme ça, ouais. C'est peut-être clair aussi.
Et puis quand même, le niveau, c'est souvent ce que répète Didier Deschamps, le niveau international, quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, après, pour tous ceux qui jouent dans les grands clubs, ça devient normal d'être sélectionné et de jouer ce genre de match. Mais le fait de revêtir à chaque fois le maillot de l'équipe de France et de jouer pour son pays, c'est toujours... que ce soit la Ligue des Nations ou des matchs amicaux, ça reste des matchs quand même particuliers.
Ce qu'on pourrait améliorer, alors il ne veut pas toujours être l'emmerdeur de la bande, mais Jeannot l'a déjà dit, c'est au moins quand il y a deux semaines de coupure, tu n'es pas obligé quand même de faire deux matchs en trois jours. Tu peux quand même en rajouter un quatrième. Et ensuite, on peut quand même mettre exceptionnellement, au lieu de cinq changements, d'en rajouter deux, c'est-à-dire sept changements. Donc il n'y a pas seulement les changements après, parce que le match change, mais en cours de match, de pouvoir remplacer sept joueurs.
32-16 pour nous rejoindre sur RMC. Ouais, Jeannot, juste pour dire aux supporters des Bleus qui peuvent nous rejoindre, évidemment, s'ils veulent en discuter avec nous, Jeannot.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon dont Didier Deschamps a abordé cette troisième édition. La première édition, souvenez-vous, ça passe pas parce qu'il y a une élimination entre guillemets par les Pays-Bas avec une défaite notamment à Rotterdam. La deuxième, bah ça passe, ça va en finale à 4 et ça gagne.
Bon, ce qui a bien arrangé Didier.
Exactement. Et ensuite,
qui sortait de l'élimination contre la Suisse.
En juin, avec des matchs toujours compliqués pour l'équipe de France quand t'es pas sur une compétition comme un Euro ou comme une Coupe du Monde, où tu perds contre la Croatie, tu te fais bouger par le Danemark, tu te fais bouger par l'Autriche, pardon, tu perds contre le Danemark, et du coup t'es à deux doigts de te retrouver dans la Ligue B, ce qui est arrivé à l'Angleterre, hein, entre parenthèses, parce que l'Angleterre a perdu contre la Grèce, mais ils sont en Ligue B, donc ils sont vraiment un étage en dessous. En revanche là, il a abordé cette compétition en septembre en fixant des règles entre guillemets sur le fait que pour lui l'objectif c'est la préparation de la Coupe du Monde, de la prochaine Coupe du Monde, tirage au sort en décembre, les matchs, on verra comment ça se passe pour une poule à 6, une poule à 5, suivant ce qui se passera pour l'équipe de France dans cette Ligue des Nations. Mais au moins il est clair dans son esprit de sélectionneur que il va donner du temps de jeu à certains,
oui.
Qu'il a rajeuni cette équipe de France, qu'il a pas donné que des bouts de match, qu'il a fait un turnover de 8, on verra s'il en fait un turnover de 4, de 6 par rapport au match de jeudi et celui de demain, mais voilà, je vous propose de l'écouter, au moins dans sa philosophie et dans la façon dont il a décidé d'aborder cette compétition. On n'a pas le moyen de l'entendre. Bon, dans la façon dont il a abordé cette compétition, il a au moins été très clair là-dessus.
Oui.
C'est que pour lui, c'était l'occasion de donner du temps de jeu à certains. Et dans les certains, il y a Manu Koné, il y a Mikael Olise, deux médaillés d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Donc ça veut dire un message fort pour ceux qui étaient avec Thierry Henry, et un message tout aussi fort pour ceux qui sont en ce moment avec Gérald Batic pour aller chercher la qualification pour l'Euro. Ce sera contre l'Autriche jeudi prochain à Nancy. Donc quelque part, il y a une logique de mise en place d'un groupe et d'élargissement. Et c'est la raison pour laquelle, mais là je pense que je vais me faire des copains, je finirai là-dessus. C'est la raison pour laquelle.
Après, tu disparais.
C'est la raison pour laquelle il a pas trop insisté par rapport à Kylian Mbappé sur le fait qu'il avait besoin d'être ménagé et de souffler.
Ben,
après, on maîtrise pas ce qui s'est passé par rapport à sa vie privée et l'escapade en Suède et à Ajaccio.
Bon, en tout cas, le message envers les joueurs est clair. L'objectif est clair, c'est préparer la Coupe du Monde. Après, est-ce que ça va permettre aux observateurs et aux spectateurs et aux téléspectateurs de trouver du plaisir à tout ça? Ça, c'est aussi une autre question.
Ça, c'est autre chose.
Ouais. Ouais, bon, après, oui, c'est sûr que par rapport au match face à Israël, on sait qu'il n'y avait pas grand monde devant la télé, mais déjà demain c'est quand même une autre opposition, on n'a pas arrêté de le dire, la Belgique ça reste quand même toujours un match particulier avec une opposition quand même qui devrait être intéressante.
Puis excuse-moi de te couper, il y a des souvenirs, les souvenirs c'est pas seulement les huitièmes de finale là, que l'on vient de jouer contre eux dans un match avec un niveau plus que moyen, des organisations et des compositions d'équipe incompréhensibles, que ce soit donc de cette équipe de Belgique, mais moi ce qui me revient quand même en mémoire, c'est 2018, les demi-finales, où il y a peut-être le plus beau match de Loris de toute sa carrière internationale, avec Hazard, De Bruyne. Ça c'était la génération qui, contrairement à nous, même si on est passé par un trou de souris ce soir-là, n'a pas réussi avec cette génération de haut niveau, bête de gagner une compétition, et l'équipe de Didier avec Didier, elle, oui.
Merci beaucoup, Jeannot. On va te libérer pour suivre ces Bleus au mieux. Merci encore d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
Salut, bon entraînement, bonne soirée à toi et bon match demain. Évidemment, on te retrouvera sur les antennes demain. Dans un instant, Rabat, un supporter des Bleus, sera en ligne avec nous au 32-16 pour réagir sur l'intérêt de cette Ligue des Nations. Bah, s'il y en a qui en trouvent, et c'est le cas de Rabat, donc on a hâte d'avoir son avis. Coach Courbis, Seb Piocel, on reste ensemble, bien sûr. L'intégral foot se poursuit, et puis on parlera de la Belgique aussi, hein, parce qu'évidemment, on l'a évoqué un petit peu avec Jeannot et toi, coach. Mais 18h45, Jean Baumel, notre correspondant dans le Nord, qui a suivi la journée des Diables Rouges, conférence de presse aussi de ces Belges. On suivra cela avec lui tout à l'heure. Petite pause, on revient dans l'intégral foot sur RMC. À tout de suite.
RMC, intégral foot.
Marina Lorenzo.
Avec coach Courbis, Seb Piocel. Il est 18h15. On continue de parler de l'équipe de France avant Belgique-France demain, cette Ligue des Nations sur laquelle on s'interroge. Et on est avec un auditeur au 32-16. C'est Rabat qui est avec nous. Salut Rabat.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Salut Rabat. Salut
avec
Rabat.
Grand bonjour à l'antidépresseur du foot, Monsieur Courbis.
Oh, l'antidépresseur.
Ça c'est un surnom.
Exactement. Voilà. Ça c'est un vrai surnom.
Ouais. Je te remercie.
Je t'en prie.
Alors toi Rabat, on parlait de l'intérêt de la Ligue des Nations tout à l'heure en se disant c'est un peu comme des matchs amicaux. Finalement, toi tu y trouves de l'intérêt?
Alors le seul intérêt que j'y trouve, c'est de voir jouer l'équipe de France. On est à 10 matchs à l'année. L'équipe de France joue une dizaine de matchs à l'année, donc je regarde.
Ouais.
Par contre, je ne porte pas un très grand intérêt dans le cas où je ne kiffe pas la compétition, on va dire.
D'accord.
Ouais, c'est notre pays, donc on regarde, on l'aime.
Donc c'est une observation de ta part en se disant, tiens, lui, pour notre vraie équipe de France qui n'est pas celle-là, donc ça pourra peut-être nous permettre de progresser.
Exactement. Alors, c'est vrai que c'est une compétition qui peut paraître, on va dire, on rencontre toujours les mêmes grosses équipes. On est sur de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal. On tourne que sur ces grandes équipes. On a moins l'occasion d'affronter le Japon, d'affronter la Côte d'Ivoire, d'affronter le Brésil en match amical pour découvrir d'autres foot. Par contre, ça reste l'équipe de France, les gars. Vous voyez ce que c'est?
Ouais, mais Rabat, ça serait des matchs amicaux, c'est-à-dire que tu regarderais quand même alors?
Je regarderais. Oui.
Oui.
Donc ça, ouais, c'est
et
pas
je pense que
en rapport avec la Ligue des Nations.
Un petit peu plus grand intérêt aux matchs amicaux. On jouerait contre le Japon qui viendrait se défoncer sur le terrain parce qu'ils voudront faire un résultat contre l'équipe de France. Je kifferais regarder ce match.
Oui.
Donc je regarde parce que c'est l'équipe de France, mais sinon franchement.
Oui, voilà. C'est pas la compétition qui t'intéresse, c'est de voir les Bleus de toute manière, quel que soit le match, tu les regarderas. Et là, tu prends du plaisir à les voir?
Non.
Oui. Mais voilà, c'était
plus radical. Plus depuis 2018. Depuis 2018, on constate quand même un certain déclin. Même si on a vu 2022, Coupe du Monde au Qatar, un certain engouement pour soutenir l'équipe de France, pour aller remporter le titre, qu'on n'a pas réussi à le faire. On est passé à un cheveu. Par contre, ouais, on sent quand même qu'il y a un déclin derrière tout ça.
Mais donc, tu regardes attentivement les matchs ou tu fais autre chose pendant ce temps? Parce que
je fais autre chose. Désolé de vous le dire, mais je fais autre chose en même temps.
Donc, tu fais partie quand même des téléspectateurs qui sont enregistrés, mais l'attention n'est pas complètement là. Quoi. Bon.
Exactement. Donc, okay. On continue de regarder parce qu'on n'a pas l'occasion. Ce n'est pas un club. Il n'y a pas 38 matchs à l'année. On est obligé de regarder parce que c'est 10 matchs, grosso modo, à l'année. Mais intérêt derrière, non. C'est moins prestigieux qu'une Coupe du Monde. C'est moins prestigieux qu'un championnat d'Europe, mais on regarde quand même.
Voilà. Eh bah ouais,
parce qu'on est des mordus du football.
Bah ouais, tu fais ton devoir de supporter des Bleus, moi je vois ça comme
exactement.
Ça. Merci Rabat, à bientôt j'espère.
Merci à vous.
Salut Rabat.
Bonne soirée, alors, salut Rabat. Bienvenue au 32-16 également à Mohamed qui est avec nous. Salut Mohamed, bienvenue.
Bonjour.
Salut Mohamed.
Alors toi, tu es supporter du Real et de l'OM, c'est ça, d'après ce que je vois, mais les
Bleus,
oui,
alors. En fait, moi, je voulais intervenir à l'antenne pour vous dire que, en fait, l'équipe de France, avec, on va dire, ils ont, en fait, c'est des nouveaux matchs amicaux, en fait, on va dire des matchs amicaux officiels, comme disait Roland Courbis tout à l'heure à l'antenne. Et en fait, si vous voulez, moi, depuis la Coupe du Monde au Qatar, je regarde plus l'équipe de France, mais vraiment.
Ah oui, plus du tout.
Bah, tu boudes, quoi.
La dernière fois, je me suis endormi.
Ah, tu boudes,
mais même l'Euro, Mohamed, t'as pas regardé l'Euro?
Alors, l'Euro, j'ai regardé. J'ai regardé pas le début, jusqu'au.
Ouais, t'as fait ça mal de regarder, il m'a mérité d'écouter RMC.
Voilà, exactement. Entre deux. Mais c'est pour vous dire que l'équipe de France aujourd'hui, je suis pas le seul. Moi, je suis président d'un club de foot dans ma ville.
D'accord.
C'est quel club?
Une trentaine d'années, d'accord.
C'est quel club?
Sur un club de foot amateur.
Comment il s'appelle, Mohamed?
L'Académie Roubaix Football Club.
D'accord.
Et je côtoie beaucoup de passionnés, de mordus. On est tous des mordus de foot. Mais au point qu'aujourd'hui, on veut plus regarder. Et on se dit vivement, vivement la Coupe du Monde 2026 qu'on passe à autre chose, vraiment.
Oui, d'accord. Donc toi, tu veux du changement au niveau de la tête de l'équipe de France.
Ça sera à peu près les mêmes. Hein. Je sais pas, moi qui il y a une énorme surprise, mais bon, a priori, on est parti avec le même sélectionneur et plus ou moins les mêmes.
Ça, je vous dis, plus ou moins les mêmes.
Ouais, c'est après que tu retrouveras de l'intérêt quand Didier Deschamps aura cédé sa place.
Moi, je pense, même sur le show des joueurs, sur la dynamique, sur la manière de jouer. Sur nous, on veut du spectacle. Hein. Vous savez, moi, j'ai été voir Lille, Real de Madrid, on s'est régalé. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est ça.
Mais c'est vrai qu'on l'entend, évidemment, hein, ce discours.
Voilà, j'ai passé une soirée comme je n'avais pas passé depuis très longtemps.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça crée une lassitude générale, quoi. C'est ça, c'est cette espèce de...
Ah ouais, c'est ça. Et puis moi, je vais même vous dire, moi j'ai mon fils qui est cramé, il y a le maillot, il y a le survêt. Même lui, il s'est déconnecté aussi. Mais alors là, d'une vitesse, un truc de fou. Mmh.
Alors comment les reconnecter, coach, c'est supporters des Bleus, parce qu'il y a les...
Là, sincèrement, j'ai pas la solution.
On voit toujours à peu près les mêmes joueurs. Il y a un peu un désamour, je trouve, au niveau de l'équipe de France. Mais ouais, j'ai plus l'impression que c'est lié aussi au sélectionneur. Il y a pas mal de personnes qui souhaitaient, à juste titre ou pas, que Deschamps passe la main. Après l'Euro, bon, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que même s'il y a des nouveaux joueurs forcément qui arrivent au compte-goutte, forcément c'est pas dans l'animation, dans le jeu avec ballon. On a tendance à s'ennuyer par rapport au potentiel qu'il y a et que le football français peut nous apporter. C'est ça qui est dommage.
Je pense qu'on risque de passer à côté de pas mal de jeunes joueurs. Et Roland, il est bien placé pour en parler. Vous savez, après c'est l'usure. Vous pouvez pas laisser quelqu'un autant d'années, quel qu'il soit, vraiment. Je pense pas me tromper, mais c'est pas possible. Regardez les bancs dans des plus gros clubs européens. La durée, c'est quoi, 3-4 ans. Je vois vraiment, s'il y en a un qui dure, après, il s'explose tout seul.
Non, après, bon, sélectionneur, c'est un petit peu différent comme rôle.
C'est différent, mais rester 12 ans, ce que fait Didier, c'est tout simplement un exploit. Et les personnes qui lui permettent de faire cet exploit, ce sont des personnes qui n'anticipent rien. C'est-à-dire que, au lieu de penser en se disant, tiens, le sélectionneur actuel, qui a une carrière extraordinaire, autant comme joueur que comme entraîneur, que comme sélectionneur, ben, il va quand même être à un certain moment dans la merde, parce que enlever 5 à 6 joueurs importants, comme les Varane, comme les Loris, comme les Giroud, comme les Griezmann, avec qui tu as des souvenirs extraordinaires, et leur terminer petit à petit leur carrière en les mettant de côté, ben là, je pense qu'on lui en demande beaucoup et peut-être qu'on lui en demande beaucoup trop.
Donc, la mission est trop importante pour toi, coach, aujourd'hui, parce que l'anticipation n'a pas été faite?
Complètement. Je pense que tu parles
de l'anticipation de changer d'entraîneur ou
Ah, ben oui.
Ah oui, non, mais là, je pense que c'est même pas une chose d'anticiper. Je pense que c'est une volonté du sélectionneur actuel de rester.
Ah, mais,
et quand on dit que Mbappé décide de pas mal de choses, je pense que Deschamps décide de beaucoup de choses.
Oui,
aussi,
mais bon, je ne m'imagine pas.
Quand il partira, en fait.
J'ai une habitude, je sais pas si elle est bonne, c'est que quand il y a un problème, même un problème des passionnés que nous sommes, j'essaie de me mettre à la place des personnes. Si je suis à la place de Didier Deschamps, je signe 15 ans de contrat en équipe de France. Pas seulement. Mais là, quand par exemple il y a un euro, il y a si tu veux, des joueurs qui vont être obligés d'arrêter, ça va être très très compliqué. Si tu as personne pour remplacer Didier Deschamps, ben à ce moment-là, tu continues, même encore 20 ans avec Didier. Mais il y a quand même une personne, on sait de qui je veux parler, qui est là, derrière la porte, prêt à prendre le relais amicalement. Ben ça, je pense que ça aurait pu être une bonne chose pour notre équipe de France. Donc c'est pour ça que je dis, n'en demandons pas trop à Didier. Rester 12 ans en équipe de France comme ça, ben je lui tire un grand coup de chapeau.
J'ai plus l'impression qu'il s'accroche aussi à ce poste-là, à un moment donné. Je suis d'accord, parce que les résultats sont quand même bons depuis qu'il est là.
Dans mon habitude, si tu es à sa place, qu'est-ce que tu fais?
Ah non, si je maîtrise totalement, en gros, je fais ce que je veux, c'est-à-dire que quand je décide de prolonger, je prolonge. Quand je décide de mettre des objectifs, c'est moi qui décide. En gros, presque, je signe des deux côtés.
Dans la dernière prolongation de son contrat, 4 ans, et pourquoi pas 8 ans. Donc déjà, tu signes 2 ans, on verra au bout de 2 ans ce qui se passe.
Hiérarchiquement, il y a quand même des personnes au-dessus. Il y a quand même.
Mais justement, c'est pas la faute de Didier si on le fait signer 4 ans. Et moi, je pense que 4 ans, c'était beaucoup, pour ne pas dire beaucoup trop.
Que Didier se batte
pour garder son équipe de France. Mais je suis. Mais c'est logique. Je ferais pire que lui. J'essaierais de signer 8 ans.
Coach Courbis, merci beaucoup. Mohamed, en tout cas, on te salue. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à l'équipe.
Merci, on ne dit pas bon match demain, mais bon, tu verras peut-être le résultat après la fin du match. Merci beaucoup, en tout cas. Coach Courbis, Seb Piocel, petite pause. On se retrouve dans l'intégral foot, toujours spécial équipe de France. On va parler du milieu de terrain des Bleus et puis bien sûr de la Belgique, notre prochain adversaire.
RMC Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
On est de retour avec Coach Courbis, avec Seb Piocel, avec vous, supporters des Bleus au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir au thème que l'on aborde. Et là, on va parler du milieu de terrain des Bleus, messieurs, parce que on a le sentiment que c'est le point faible de cette équipe de France. Grisou plus là, on fait comment au milieu de terrain et comment on la densifie cette équipe pour que ça fonctionne bien. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire que c'est le point faible de cette équipe?
Disons qu'on a beaucoup de joueurs et beaucoup de profils, on va dire un petit peu similaires. Donc on est d'accord, hein, c'est des joueurs de très haut niveau, que ce soit des joueurs plus confirmés ou des joueurs là comme Koné qui vont arriver, Zaïre Emery, beaucoup de joueurs qui sont est capable de jouer devant la défense ou est capable d'aller percuter, des joueurs modernes, on va dire, de ce milieu-là. Maintenant, là où on pêche, au-delà de trouver un véritable avant-centre à un moment donné pour marquer des buts, c'est surtout dans la créativité. Et c'était déjà un petit peu le débat quand il y avait encore Antoine Griezmann qui avait vraiment un profil atypique et qui jouait beaucoup moins, où on savait pas trop où le placer, notamment lors du dernier Euro. Et moi, le truc, enfin, l'analyse, elle est plutôt simple. C'est simplement que on forme pas en France ce genre de joueurs. Ou alors, on commence à les former, mais on les met pas en avant parce que aujourd'hui, on recherche d'autres qualités et on oublie à un moment donné que même si tous les joueurs que je parle de haut niveau savent forcément faire une passe à 5 mètres, une transversale, il n'y a pas de souci à anticiper. Mais dans la créativité, dans le positionnement, alors je vais pas revenir au numéro 10 à l'ancienne, hein, on sait que c'est un petit peu obsolète, mais on forme pas ce genre de joueurs.
Il y en a,
mais c'est des joueurs qu'on regarde moins ou qu'on va quand même prendre, on va dire en dernier recours dans les centres de formation, mais sous prétexte qu'ils soient peut-être un petit peu plus petits, un petit peu moins athlétiques. Ou alors on va les décaler sur des côtés pour mettre, parce que ça peut être aussi des joueurs de vitesse, des joueurs de pied, mais des joueurs du profil de Griezmann, il y en a pas, donc on peut chercher de partout, il y en a pas qui se rapproche même un Olise par exemple qui est pareil, qui a un très bon pied, je pense qu'il est quand même plus à l'aise quand il va démarrer dans un couloir et notamment à droite en rentrant à l'intérieur. Mais ce dernier joueur entre les lignes qui est capable de trouver ses passes à 4-5 mètres où il y a que lui qui les voit par exemple, il y en a plus ou très peu.
Coach, t'es d'accord avec ça? Il faut qu'on se passe de ce genre de profil maintenant.
C'est-à-dire que déjà tout ce que vient de dire notre ami, ben évidemment c'est très intéressant puisqu'en plus ça il pourra pas le dire, ça a été un très bon milieu qui pour moi aurait dû faire une carrière supérieure à ce qu'il a pu faire. Mais avant de parler de nos éventuelles faiblesses au milieu, essayons de se mettre d'accord dans quelle organisation. On va pas en prendre 50 d'organisation, on va en prendre seulement 2. Ouais. Les 4 défenseurs, eux, ils bougent pas. Et ensuite, soit un 4-3-3, c'est-à-dire 3 milieux et 3 attaquants, soit un 4-2-3-1, c'est-à-dire toujours les quatre défenseurs, les 2 milieux là, à ce moment-là, et là, une ligne de 3 avec la possibilité de permutation. Et là, Je pense que si on n'a pas le remplaçant et le remplacement de Griezmann, on peut arriver à se débrouiller, de trouver quand même des solutions avec un, voire deux joueurs. Le Nkunku, que je trouve très, très intéressant. Si on n'a pas la bonne et la très bonne solution, essayons de trouver la moins mauvaise. Et à ce moment-là, eh ben, le Nkunku, on peut le mettre dans un rôle de neuf qui ressemble à un neuf, mais qui n'est pas un véritable neuf. À Kliouche, qui va arriver le plus rapidement possible. Ensuite, Dembélé et Barcola. On va dire, il y a quatre offensives, mais avec Dembélé et Barcola, à condition de se mettre d'accord de quel côté on peut les faire jouer. Pour moi, Dembélé est nettement meilleur à gauche qu'à droite, mais ça reste mon idée, pas obligatoirement la bonne, mais c'est la mienne. Et ensuite, ben, Olise, oui, mais pas à la position que je l'ai vue. Dans un 4-2-3-1, Olise, pour moi, c'est côté droit. Nkunku, c'est pas côté gauche. Côté gauche, c'est un Barcola ou un Dembélé. Nkunku, c'est un numéro 9 ou un 9,5 en retrait d'un numéro 9. Si on n'a pas de numéro 9 qui s'impose entre Thuram et Kolo Muani, eh ben, c'est comme ça, on le constate. Ben, à ce moment-là, on essaye de trouver une autre solution. Mais, je trouve, tu vois, que ça serait sévère de dire nos milieux sont bidons. Si dans un 4-3-3, si dans un 4-3-3, tu mets trois numéros 6, comme nous avons mis dans le match où Griezmann s'est retrouvé, chose qu'il n'a pas l'habitude, puisque lui, il avait l'habitude de battre des records en équipe de France, de démarrer les matchs, et d'un coup, à 32-33 ans, ben, il se retrouve en train d'applaudir les copains pendant la Marseillaise. Donc ça, si tu veux, c'était nouveau pour lui. Et je pense que là, si tu me dis que les trois meilleurs milieux de l'équipe de France, c'est Tchouaméni, Rabiot et N'Golo Kanté, non, les amis, là, il n'y a pas de créateur. Là, il faut quand même qu'on arrive à construire nos victoires. Il faut qu'on arrive à construire des occasions. Et si tu penses construire des occasions avec trois milieux qui ressemblent à des numéros 6, c'est le contraire qui devrait t'étonner. C'est pas d'être étonné. Donc là, c'est tout à fait pour moi une erreur. On en fait tous des erreurs. Mais quand Didier fait un 4-3-3 avec trois numéros 6, pour moi, c'est une énorme connerie. Chacun sa vision du football.
Et donc, il devrait adapter son système aux joueurs qu'il a, effectivement, et repartir en 4-2-3. Du coup, c'est ça que tu dis.
Quand tu as un 4-2-3-1 avec des joueurs qui sont capables, pendant même 70-75 minutes de se replacer, de défendre tout comme Dembélé et Barcola, la possibilité aussi de les faire permuter, mais tu es suffisamment solide et suffisamment équilibré.
Mais c'est qui que tu mets dans ce cas-là, coach, derrière ton attaquant, dans le 4-2-3-1?
Dans un 4-2-3-1, mais Nkunku.
Ouais, donc ouais, qui est quand même plus un attaquant à la rigueur. Un joueur, bon, on n'en parle plus du tout, mais comme Benzema, à la rigueur, aurait pu jouer avec un autre attaquant.
Et en 4-3-3, ben, comme je n'ai pas de numéro 10, je transforme cette organisation à une organisation où je mets en 9, un 9,5. Quand nous avons le ballon, eh ben, il a le boulot de pouvoir décrocher pour être trouvé avec des qualités techniques capables d'orienter les contrôles et tout. Et ensuite, les deux flèches sur les extérieurs, qui eux auront comme boulot de partir de l'extérieur vers l'intérieur derrière le décrochage de Nkunku.
Donc je suis plutôt d'accord, mais on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que on forme plus, on forme pas de ce joueur de profil de Griezmann. Ben, on leur laisse pas la place, oui, parce qu'il y a des très bons joueurs de foot dans tous les clubs.
À Cluj de Monaco, il arrive gros comme une maison, le petit Doué qui était à Rennes. Pour le moment, bon, il a des difficultés pour s'intégrer et pour s'imposer. Mais nous avons quand même une possibilité d'une relève où on peut arriver dans un 4-2-3-1, avoir une équipe capable de construire ses victoires et capable de construire des occasions de but.
À Kliouche, il a des espoirs, donc il ne va pas tarder à arriver.
Voilà, à Kliouche, c'est sûr qu'il deviendra international. Ah, mais c'est une certitude.
Ça veut dire qu'il faut changer plus rapidement, faire une revue d'effectifs plus rapidement pour retrouver cette créativité
C'est le moment. Moi, je trouve que là, tous les joueurs qu'il y a, et encore une fois, ça reste de très bons joueurs. Tout à l'heure, on regardait dans tous les grands clubs où ils évoluaient, il n'y a pas de souci, et la plupart titulaires. Mais à un moment donné, oui, c'est il y a pas forcément d'âge pour là, c'est quasiment que des joueurs de percussion avec techniquement bien sûr à ce niveau-là capable de aussi de bah, forcément de faire des différences. Mais on n'a pas ce joueur, on n'a pas un Pedri, on n'a pas ce. Et je suis désolé, moi qui m'occupe un peu des jeunes. Et notamment aussi même en région parisienne, des gamins de alors c'est très jeune au départ, mais de 12, 13, 14 ans, mais il y a des super profils et qui vont pas forcément à 3000 à l'heure, qui vont pas forcément que percuter, mais par contre qui savent se déplacer, qui savent sentir le jeu, qui savent voilà. Et à ces joueurs-là, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi leur donner un peu plus d'espace et de chance dans les centres de formation. On se retrouve souvent avec les mêmes profils.
Oui, stéréotypé, hein, pas seulement sur le milieu de terrain, effectivement. Coach.
Ben oui, mais oui. Bon, moi je changerai pas mon avis. Après, s'il y a quelqu'un qui m'explique que je me trompe et que il m'explique le pourquoi je me trompe, ben premièrement je l'applaudis, deuxièmement je le remercie, je dis tiens, on progresse à tout âge, c'est vrai. Ce que tu es en train de me dire, j'y avais pas pensé. Pour le moment, je regarde justement des choses où c'est celui qui les fait qui n'y a pas pensé. Ben c'est peut-être pas modeste de ma part. Je suis désolé. Je présente mes excuses.
Voilà les joueurs que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est ça que tu dis, quoi.
Non, c'est pragmatique, finalement. Quand, par exemple, on voit mon équipe avant même qu'elle commence, mon équipe, ce qu'on appelle, il y a sur le terrain et sur le papier. Quand je vois l'équipe de France en 4-3-3 avec trois milieux défensifs, c'est-à-dire des joueurs avec le rôle de 6-8 et trois attaquants, je dis, mais qui c'est? Qui va faire cette dernière passe ou cette avant-dernière passe qu'on néglige? La dernière passe, on la met comme passe décisive. L'avant-dernière passe, on s'en fout. Donc, c'est-à-dire que le gars qui fait une passe à celui qui va faire la dernière passe, on s'en fout complètement dans les stades. C'est pas la mode. Eh ben, je suis pas à la mode. Je suis vieux jeu. Tu me donnes l'équipe de France qui démarre un match sans joueur capable de faire des dernières passes dans les 30 derniers mètres et des avant-dernières passes. Je vous conseille de ne pas être surpris si ça ne marche pas. Ben c'est voilà. Si ça marche qu'on devrait être surpris, pas si ça marche pas. Et voilà. Si ça marche pas, c'est normal.
J'espère que vous avez bien écouté Coach Courbis. On se retrouve dans un instant. Garde la même énergie parce qu'on va parler de la Belgique, bien sûr, notre adversaire demain. Une petite pause dans Intégral Foot avec Coach Courbis et Seb Thiossel. Et on parle de ces diables rouges avec Jean Baumel, notre correspondant dans le Nord. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Coach Courbis, avec Seb Thiossel pour parler de cette équipe de France. On a encore un quart d'heure de direct ensemble avant Bartoli Time. Et on va parler de la Belgique parce qu'on va se pencher sur ces diables rouges que l'on a l'habitude de fréquenter, d'affronter aussi. C'est important. On va en parler avec notre correspondant dans le Nord d'RMC. C'est Jean Baumel qui est avec nous. Salut Jean.
Bonsoir Marina, bonsoir Seb, bonsoir Coach.
Salut,
bonsoir
Gilles.
À tous.
Avec, ben, on le disait, un match finalement entre deux sélections qui vivent un peu les mêmes tourments. Voilà, avec un sélectionneur qui est décrié, des stars aussi. Enfin, tu vas tout nous expliquer.
Exactement, c'est vrai que bon, on a parlé nous énormément de Kylian Mbappé parce qu'il avait joué contre Lille, il avait joué le match suivant avec le Real en championnat, il est pas avec les Bleus. Côté belge, on a à peu près le même scénario avec Kevin De Bruyne qui a préféré rester à City, Lukaku bah avec son nouveau club, il veut se régler avec Naples, Thomas Meunier à Lille, bah qui a joué le
ils
dernier
sont pas
match
et... comme Mbappé cela quand même.
Écoute,
ils ont pas joué le week-end dernier.
On en parle pas autant que nous.
Et puis tu as
Courtois. Alors lui, c'est encore autre chose. Bon, il est blessé, mais lui, il a dit, c'est clair. Il dit tant que Tedesco, hein, Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique est présent, sera encore à la tête des Diables Rouges. Bah, il a dit, je ne reviendrai plus. Donc, les choses sont bien claires. Donc, on a posé la question à Wout Faes, le capitaine et ancien joueur de Reims qui est désormais à Leicester. Et bien sur les absents de Kevin De Bruyne, Lukaku et Meunier, parce que on a l'impression aussi que rater la sélection, c'est un choix qui est un peu particulier.
Je pense qu'il faut regarder cas par cas ce genre de questions. Puis je pense que ça permet aussi au coach de voir d'autres joueurs qui sont là et qui performent bien en club. Et maintenant, dans le foot international, il y a des cas comme ça. C'est vrai que certains joueurs, ils ont un programme beaucoup plus chargé que d'autres. Puis il y a des cas où avec Romelu, par exemple, il a fait un transfert très tardif. Et si lui se sent mieux et qu'il parle avec le coach et ils se mettent d'accord pour faire ça, pourquoi il y aura un souci?
Bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi il y aurait un souci, coach, finalement, hein? Bah, on se demande.
Il n'y a pas de souci. Ça paraît simple. En tout cas, ça paraît fluide à entendre comme ça. Bon, après, c'est aussi parce que encore une fois, on revient deux secondes sur Mbappé. Je pense que le vrai problème, c'est pas sa sortie, c'est le match qu'il a joué face à Villarreal. Enfin, pour moi, c'était la grosse incompréhension à ce moment-là.
Tu sais, tout à l'heure, je disais un truc. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que il y a l'équipe sur le terrain et l'équipe sur le papier. En ce qui concerne un match de huitième de finale qui se joue en un seul match, il n'y a pas ni match aller ni match retour. La composition d'équipe de départ de la Belgique contre notre équipe de France, je n'ai jamais vu ça à ce niveau-là. Deux numéros 9, Openda et Lukaku. Deux ailiers. Un numéro 10 derrière ces quatre attaquants. Un seul numéro 6 et quatre défenseurs qui allez, sont individuellement moyens. Il leur faut plutôt des copains un petit peu pour consolider ça. C'était pour moi quelque chose d'unique. C'est du jamais vu. Mais en plus de ça, que nous, équipe de France, on n'arrive pas à poser des problèmes à une équipe qui a eu le culot de mettre pratiquement 5 attaquants. Eh bien, ça, c'est une de mes plus grosses déceptions. Ah, oh, on était très contents, on s'est qualifiés, on bat en quart de finale. Donc, on a marqué un très joli but. Ah non, plutôt, non, c'est pas nous, c'est le Belge qui l'a divisé contre son camp. Donc, avec cette équipe-là complètement déséquilibrée vers l'offensive, qui, en plus de ça, n'arrive pas à se construire beaucoup d'attaques, ben, ça a été pour moi un des souvenirs de choses que je n'aimerais plus voir quand on parle de football.
Bah, Jean, justement, t'as des indications sur ce à quoi pourrait ressembler le 11 belge demain ou?
Et est-ce que tu te rappelles de ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on est bien d'accord sur la composition d'équipe des huitièmes de finale de
l'Euro? Bien sûr, et puis, tout le temps, ce qui énerve un peu tout le monde, c'est que Lukaku, bon, là, il est pas là, mais c'était du systématique. Tout le monde voulait voir Openda en pointe. Alors, par rapport à l'équipe, ça,
il a mis les deux, quoi.
Ah oui, non, mais
si on lui dit il y a un problème avec Courtois, il va mettre deux gardiens.
Non, là, ça sera Castells.
Parce qu'il y a plus de problème avec Courtois.
Non, c'est vrai. Non, mais là, c'est Castells qui sera titulaire. On aura quasiment normalement la même équipe qui a fait match nul, hein, match nul difficile contre l'Italie parce que ils étaient menés 2-0. Ce match a fait couler beaucoup d'encre en Belgique parce que les Diables ont su réagir parce que les Italiens se sont retrouvés à 10. Et puis il y avait aussi la position de Jérémy Doku latéral droit qui n'a pas été compris ici chez nos confrères belges. En tout cas, la compo, ça va être certainement celle-là avec Castells en défense, Castagne, Faes qui était à Reims, ouais. Arthur Théâtre, hein, que tu connais, coach, qui était ouais. À Rennes, de Kuiper, et puis au milieu de terrain, l'ancien Monégas Tillmans, Mangala, De Ketelaere, Trossard, Doku, et en pointe, l'ancien Lensois, Luis Openda.
Ah ben là, celle-là, elle est beaucoup plus mieux équilibrée.
Ouais, il va pas du tout faire tourner.
Que celle qui nous a pondu en huitième de finale.
Et puis il joue un peu gros, Domenico Tedesco, parce que ouais. C'est vrai que s'il y a défaite demain, il y avait eu quand même bon le match aller d'une défaite 2-0, même s'ils avaient bien démarré contre les Bleus. Il y a l'élimination en huitième de finale. Et puis bon, il y a eu tous ces problèmes aussi avec les supporters. Vous rappelez hein, la fin de match contre l'Ukraine de mémoire, avec les Diables Rouges, bon, qui ont salué les supporters, qui sifflaient un peu, Kevin De Bruyne qui était pas content. Donc il y a quand même toute une tension. Un petit peu, puis voilà, on va le répéter, c'est bien pour nous, mais pas pour les Belges. 43 ans que les Diables Rouges n'ont pas battu les Bleus dans un match officiel. La dernière fois, c'était en 81, c'était ici même. D'ailleurs, le stade s'appelait le stade du Ezel et pas le stade du Roi Baudouin. C'est hein, d'ailleurs pourquoi on a changé de nom suite à la catastrophe de la Ligue des Champions, la Coupe des Champions entre la Juve et Liverpool et ce drame ici même. Mais en tout cas, il joue gros et c'est vrai qu'on lui a posé la question à Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges. Bah voilà, ça fait 43 ans, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que y a pas la crainte de passer encore une fois à travers? C'est eh bien, on va écouter sa réponse.
So for me, the glass is always half full.
Je suis du genre à avoir le verre à moitié plein, alors c'est une grande motivation. On peut faire quelque chose d'historique. Nous travaillons pour ces moments-là. L'équipe française alignée n'aura aucune importance. Sans Mbappé, ils peuvent quand même jouer avec Barcola à gauche, Thuram ou Kolo Muani. Mais bien sûr que Mbappé est vraiment spécial.
Thuram with Kolo Muani, but of course Mbappé has something very, very special. Yeah.
Ce qu'on peut regarder surtout, je me répète peut-être, c'est que cette équipe belge, ou plutôt cet effectif belge, cette génération belge, n'a pas réussi à gagner une compétition. Et c'est vrai que même si il y a des stats extraordinaires, je savais pas moi qu'il y avait la Belgique n'avait jamais perdu contre la France depuis 40 ans.
43 ans.
Mais ouais. Par contre,
on n'a plus gagné en match officiel depuis qu'il y a, ouais. Contre la France depuis 81.
Ouais, d'accord. Et excuse-moi, mais par contre, le match de la Coupe du Monde en demi-finale de la Coupe du Monde, il venait de battre le Brésil. Il vaut mieux pas le refaire ce match que nous avons joué.
C'est le plus grand regret des Belges.
Exactement. Donc
quand ils jouent bien, ils gagnent pas non plus.
Cette génération, en plus de ça, comme tu viens de le dire, ben même dans un match où je les avais trouvés très très bons, ben ils n'ont pas eu ce petit brin de réussite que notre équipe de France a quand même eu l'habitude de connaître pas mal de fois.
Oui, on va pas se mentir, ça c'est évident. Mais bon, ça va finir par arriver parce que finalement tout le monde le dit que c'est quand même une anomalie en fait de voir cette sélection, ces qualités qui sont pas récompensées.
C'est sûr que là, coach parlait d'une génération un peu dorée. C'est vrai qu'ils ont rien gagné finalement. Alors qu'ils avaient une équipe incroyable sur le papier, en termes de joueurs, mais aussi et d'ego. C'est peut-être aussi pour ça que ils ont pas gagné aussi à un moment donné. Là, c'est peut-être moins fort, mais ils restent quand même. Enfin, ils ont quand même des joueurs hyper intéressants. Ça reste là, si c'est la compo quasiment annoncée, ça reste plutôt cohérent. Et quand on voit les joueurs alignés, il y a quand même du talent. En tout cas, face à cette équipe de France, là, ils peuvent leur poser des problèmes. Après, de là à gagner, je sais pas, vu que ça fait quand même un petit moment. Mais je pense que Tedesco, lui aussi, pas autant que l'équipe de France, mais il a quand même de quoi mieux faire. Et c'est pour ça qu'il est un peu sur la
sellette. J'ai regardé une grande partie du match Belgique-Italie, mais jusqu'à l'expulsion de l'Italien, mais ils étaient en train de prendre une leçon de football. Donc à 11 contre 11. Et là, après, à 11 contre 10, ils ont même failli gagner.
Oui. Bon, il a aussi rectifié un petit peu le tir avec les quelques changements. C'est sûr que ça aide quand on est un de plus. Mais moi, je parle des joueurs qui sont alignés et qui devraient être alignés demain. Ça reste quand même des joueurs qui jouent aussi dans des grands clubs et qui.
L'équipe de demain peut poser
des problèmes à l'équipe de France.
Après, il y aura les changements en cours de match. Mais l'équipe qui va démarrer le match, si c'est celle qu'on vient de nous dire, elle est beaucoup mieux équilibrée que celle qu'on a parlé tout à l'heure avec les 5 attaquants.
Quoi qu'il arrive, on va se méfier évidemment de cette équipe de Belgique qu'on va affronter demain dans cette Ligue des Nations. Merci beaucoup Jean Baumel. Bonne soirée à toi.
Avec plaisir. Bonne soirée. Grosse ambiance demain attendue au stade du Roi Baudouin parce que on se souvient que le 8e de finale est resté en travers de la gorge.
Oui.
Il y avait des sifflets par rapport à la Marseillaise. Donc demain, je pense que ça va être des retrouvailles, sympas. On espère bien sûr qu'il n'y a pas de débordement, mais je n'y crois pas.
On m'a demandé une dérogation pour ne pas chanter la Marseillaise.
Avec une rivalité saine comme on aime dans les stades. Salut Jean, merci encore. À très vite.
Bonne soirée.
Bien, merci, bonne soirée également. Salut Seb, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
Allez, l'intégral foot revient. Roland, non, tu ne seras pas avec nous la semaine prochaine.
Hein ? Pardon ?
Tu ne seras pas avec nous la semaine prochaine.
Il n'est pas trop multi, Roland.
Sur le multi,
ça, on verra.
Ça, on verra. Bon, on va voir.
J'ai pas encore décidé.
Il va falloir négocier.
Au courant quand même que c'est moi qui commande RMC.
C'est le déchant d'RMC.
Allez, salut coach, salut Seb, merci beaucoup. Bartoli Time, tout de suite, émission incroyable avec un invité de marque. Ne bougez pas, messieurs. Tony Nadal, qui est l'invité de Bartoli Time. Bonne émission, 19h-20h. Ça, voilà, c'est tout de suite. Marion Bartoli, t'es là ?
Oui, mais oui, je suis là.
Pardon, je ne t'entendais pas, Marion. C'est à toi.
Comment ça va, les amis ?
Bah, super, et toi ?
Bah écoute, avec Tony, écoute, on va pleurer, je pense, on va verser notre petite larme, mais ça va être
salut
beaucoup
Marion.
D'émotions.
Ah, tu m'étonnes, encore des
salut
émotions.
Salut, coach, tu vas bien ?
Ben ouais, écoute, on va t'écouter attentivement.
C'est gentil.
Il va encore nous faire pleurer, Raphaël Nadal. Allez, salut, Marion.
Ouais.
Bonne émission, à bientôt.
Merci. Salut.